Te louer, t'adorer, Seigneur, ce soir, parce que tu es le Dieu de vérité, le Dieu du pardon, le Dieu qui donne aussi une parole que nous saisissons par la foi, et nous t'adorons, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre glorification. Seigneur, tu as tout accompli, et c'est dans le tout accompli que nous sommes. Merci de nous avoir trouvés, de nous avoir été cherchés là où nous étions, et nous avoir conduits à la table des grands. Seigneur, nous avoir réunis en famille, dans la famille de Dieu, la famille des frères et des sœurs qui s'aiment et qui t'aiment. Tu es au milieu de nous, Seigneur, et tu veux établir ton règne. Merci, Seigneur, parce que l'Église, c'est un mystère extraordinaire. Merci, Seigneur, pour le peuple de Dieu répandu sur la terre entière, ceux qui sont déjà auprès de toi, ceux qui sont sur la terre, ceux qui seront tous réunis, un jour nous serons tous réunis dans ton ciel de gloire, dans ta présence, et ça va être extraordinaire. Et nous voulons vraiment te remercier parce que tu nous as tellement aimés. Tu as prouvé ton amour et nous avons répondu à ton amour. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ce salut si grand. Merci, Éternel. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons laisser maintenant la place au pasteur Michael Williams. Il nous apporte toujours une étude accompagnée de sel et savoureuse à entendre. Donc que le Seigneur nous fortifie, nous aide à aller plus loin dans la foi, parce que ce qui est agréable à Dieu, ceux qui sont agréables à Dieu, c'est ceux qui s'approchent de Dieu avec foi, avec confiance. Alors que nous puissions être de ceux qui retiennent la parole et qui avancent dans la confiance en Dieu, hein. Qui nous garde dans sa main. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Nous étions arrivés au chapitre 17. Hein, 17 hein.
Merci, frère. Merci beaucoup. Voilà. Nous étions la dernière fois à Babylone, la nouvelle Babylone. Donc, Babylone qui est une ruine en Irak depuis le 7e siècle de notre ère, à peu près, mais qui, à la fin des temps, sera reconstruite. Reconstruit pour être détruit. Et ce soir, nous allons détruire Babylone, si vous êtes d'accord. Prophétiquement, parce que cela se passera à la fin des temps. Nous avons vu la fois passée que, au moment donné, et je pense qu'on ne doit pas attendre la fin du temps pour cela, même dans notre temps, c'est parfois le cas. Au moment donné, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que Dieu a perdu le contrôle du monde. Il semble parfois que le diable a tout à dire. Mais cela n'est jamais vrai. Cela n'a jamais été vrai et cela ne sera jamais vrai. Et si même nous, parfois, nous avons l'impression que c'est le diable qui a toutes les ficelles en main, dans la période de la fin des temps, cela sera encore beaucoup plus le cas. Mais nous avons lu la fois passée, je crois que c'est le 31, frère, je m'excuse. Voilà. Nous avons vu la fois passée, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Donc oui, ils font des choses terribles. Il semble que c'est le diable qui tient les ficelles. non dit Apocalypse, Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Ne pensons jamais que Dieu a perdu contrôle, ni du monde en général, ni de notre petite vie à nous personnellement. Moi, personnellement, ça me rassure, n'est-ce pas? Quand je lis que les cheveux de notre tête sont comptés, ne rigolez pas, s'il vous plaît. Mais c'est vrai quand même. Quand on lit « Un moineau ne tombe pas par terre, sauf sans que lui ne le... » Il n'a pas perdu contrôle, ni du monde en général, ni de notre petite vie personnelle. Et il ne perdra jamais contrôle. Et dans les temps de la fin, nous ne serons pas là pour encourager ceux qui restent et qui vont vivre les horreurs, les terreurs de la grande tribulation. Nous ne serons pas là. J'espère qu'ils liront Apocalypse et qu'ils liront ce verset. C'est Dieu qui a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Parce que à partir du moment que nous croyons que Dieu est au contrôle de notre vie, que Dieu est au contrôle de notre monde, nous avons l'espoir. Il y a de l'espoir pour l'avenir tant que Dieu est en contrôle, vous êtes d'accord? Hein? Bon, à Babylone, comme nous l'avons vu la fois passée, tout est concentré sur ce tout dernier effort de détruire Dieu, détruire sa loi, détruire sa volonté. Mais ce n'est pas Dieu qui sera détruit. C'est Babylone qui sera détruite. C'est pas Dieu qui sera vaincu, c'est Babylone qui le sera. Et cela se passera très vite. Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Est-ce que cela est possible? Ce matin, à 6 heures du matin, la nouvelle a été annoncée que l'Angleterre ou le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Europe. Déjà avant 7 heures, donc en moins qu'une heure de temps, le livre sterling a perdu 10% de sa valeur et la bourse a perdu plus de 100 milliards de livres sterling en une heure de temps. Et ça, ce n'est que parce que un pays, petit pays, a voté pour quitter l'Europe. Quand Babylone, qui, comme nous l'avons vu la fois passée, deviendra le centre commercial du monde, si vous voulez, Londres, New York, Tokyo, Francfort, tout en une seule ville. Toutes les ficelles du commerce seront à Babylone. Et l'Apocalypse dit, en une heure, tout détruit. Tout détruit. Vous qui avez vos millions investis en Angleterre, vous pleurez aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne vois pas des larmes, c'est que soit vous n'avez pas des millions ou vous ne les avez pas investis en Angleterre. Mais si vous avez des millions et les avez investis en Babylone et vous vous réveillez le matin et vous apprenez la nouvelle que tous vos millions sont partis, vous allez pleurer, n'est-ce pas? Et la Bible dit, le texte que nous avons lu la fois passée concernant la grande prostituée qui symbolise Babylone, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. La destruction sera totale. À Londres, la destruction n'est pas totale. 10% de dévaluation de livre sterling, les experts disent d'ici quelques semaines, ça va de nouveau monter. Ce n'est pas un dommage grave, permanent. On verra. Je suis encore anglais. Je suis belge aussi. Mais donc, ça me concerne un tout petit peu. Mais n'ayez pas peur, mes millions sont en Belgique. Donc, moi, je n'ai pas peur. Plutôt au ciel, n'est-ce pas? Voilà. Mais Babylone, Londres n'est pas détruit. L'Europe n'est pas détruite. N'est-ce pas? On éternue un peu, c'est tout. Mais quand Babylone sera détruite, Babylone, dit Esaïe, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, les Chaldéens ce sont les Irakiens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Quand je fais des voyages en Israël, parfois on me demande si on peut visiter Sodome et Gomorre. La réponse, non. Parce que ça n'existe plus. Il n'y a plus rien à voir. Il y a un endroit aujourd'hui qui s'appelle Sodome. Il y a une fabrique de produits chimiques. Et on dit que probablement la ville de Sodome était dans ces environs-là. Donc il se peut, si vous allez en Israël, que vous voyez un poteau indicateur Sodome. Il y a personne qui habite, c'est juste la fabrique. Mais si vous voulez trouver des restes de Sodome, il n'y en a pas. Ne vous donnez pas la peine. Et quand Dieu détruit, il détruit. N'est-ce pas? J'hésite, je suis ici pour donner une étude biblique, pas pour prêcher un sermon, mais il y a une petite leçon spirituelle là-dedans aussi. Quand Dieu détruit quelque chose de mauvais dans notre vie, il le détruit. Plus de traces. Formidable ça, n'est-ce pas? Quand le monde détruit quelque chose, il y a toujours un après-goût. Il y a toujours des ruines à visiter. En Israël, on visite des ruines, beaucoup même, n'est-ce pas? Des témoignages de ce qui a été il y a 2000-3000 ans. Quand le monde détruit quelque chose, il reste des témoignages, des ruines. Quand le diable détruit quelque chose dans la vie de quelqu'un, la vie devient une ruine. Mais quand Dieu détruit quelque chose de mauvais, plus de trace du tout. Et quand Dieu détruira Babylone, fini. Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée, l'Arabe n'y dressera point sa tente, les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux, les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront des maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Ça c'est Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ. Apocalypse, des autres mots, mais le même message. Cette femme, la grande prostituée, était vêtue de pourpre et d'écarlate. Quelqu'un qui était vêtu de pourpre ou d'écarlate au temps biblique était millionnaire. L'étoffe teinte en écarlate ou de pourpre, c'était seulement pour des personnes très, très riches. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Le diable, je l'ai déjà commenté dans le passé, je ne vais pas le faire en détail de nouveau, mais le diable n'est pas inventeur, il est imitateur. Jésus prend aussi une coupe. Et cette coupe symbolise sa mort, n'est-ce pas? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le diable l'imite. La grande prostituée a su une coupe. Mais là-dedans, il n'y a rien qui donne le salut. Au contraire, ce qui est dans sa coupe, c'est les abominations et les impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Sur son front écrit un nom. Dieu écrit son nom sur le front des siens. Le diable imite. Seulement, le nom qui est écrit sur notre front, c'est le nom de Jésus. C'est un nom qui protège. La pratique d'écrire un nom, elle est très vieille, n'est-ce pas? Elle remonte jusqu'à Caïn. Quand Caïn a tué Abel, et Dieu s'est entretenu avec lui, Caïn finit par l'admettre. Est-ce que c'était vraiment une confession? Là, c'est votre pasteur qui va prêcher une fois là-dessus. Mais en tout cas, Caïn dit, ah, quelqu'un va me tuer. Et Dieu met une marque sur son front et dit, personne ne te touchera. Et nous aussi, nous avons déjà commenté ça plus tôt dans l'Apocalypse, nous sommes scellés. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le diable ne peut pas nous toucher, sauf si Dieu le permet. Quand vous connaissez l'histoire de Job, oui, c'est pas une lecture de tous les jours, je le comprends. Mais quand Satan s'y prend à Job, la première fois, il détruit toutes ses richesses et tous ses biens. Et puis Satan vient de nouveau et Dieu dit, t'as vu, hein? Il ne m'a pas maudit. Il est resté fidèle. Et Satan dit, ah oui, c'est normal. Tu le protèges. Laisse-moi le toucher lui et il va te maudire. Je ne peux pas le toucher parce que tu le protèges. Et pour nous, c'est la même chose. Le diable ne peut nous toucher que si Dieu le permet. Et de nouveau, c'est un sermon, c'est pas une étude biblique, mais si Dieu permet au diable de nous toucher, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans le but de nous détruire, de nous faire mal. Si Dieu permet une épreuve, c'est pour nous permettre d'apprendre quelque chose. Et la fin de l'épreuve est toujours la bénédiction. Babylone, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Pour revenir au livre de Job, qu'est-ce que c'est le livre de Job? Est-ce que c'est une histoire vraie? Personnellement, je crois que oui. Certains disent non, c'est un conte de fées, c'est une allégorie. Mais si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que oui, si je dis, oui, c'est une vraie histoire vécue par ce monsieur qui s'appelait Job, mais c'est plus qu'une simple histoire. C'est aussi une instruction, c'est une leçon, n'est-ce pas? Il y a un message là-dedans. Et est-ce que vous êtes d'accord si je dis aussi, non seulement une histoire, non seulement un message, mais aussi une prophétie? Parce qu'en somme, ce qui est arrivé à Job, petite échelle, va se passer au monde à la fin des temps, grande échelle. Le diable, Dieu va lui dire, OK, vas-y. Mais Dieu va mettre des limites. Ce qui arrive à Job en petit va arriver au monde en grand. Et si vous relisez le livre de Job, moi je l'ai fait il y a 2 semaines, et parce que je suis occupé avec l'Apocalypse, je me suis dit, en le lisant, je vais le lire non seulement comme histoire et comme leçon, mais j'essaie de le lire aussi comme prophétie. Ça m'a béni, parce que ça se projette sur la fin des temps. Nous savons que la Bible, c'est un livre inépuisable, n'est-ce pas? Vous avez la même chose que moi, je suis sûr, vous lisez un passage que vous avez déjà lu 100 fois, et vous voyez quelque chose dedans que vous n'avez jamais vu auparavant. Aucun autre livre n'est comme ça. Et le livre Job, moi je l'ai lu plusieurs fois, mais maintenant je l'ai lu encore autrement. Il y a un seul texte qui est prophétique, mais le livre en soi, il se projette vers la fin du temps. Et ça nous aide à comprendre ce qui se passe derrière les coulisses ici. Je répète, c'est Dieu qui tient les ficelles, pas le diable. Alors, Jean dit, je vis cette femme ivre du sang descend des témoins de Jésus. En le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Je me suis dit, nous sommes déjà au chapitre 17 de l'Apocalypse. Ce n'est pas la première fois alors que Jean a été étonné. Nous avons déjà lu beaucoup de choses et vu beaucoup de choses dans le livre de l'Apocalypse qui nous ont grandement étonnés, n'est-ce pas? Mais alors, ça n'a pas été dit. Alors qu'ici, c'est dit. Il fut saisi d'un grand étonnement. Est-ce que cela indique que ce qu'il a vu maintenant était encore plus fort, plus impressionnant que ce qu'il a vu auparavant? Peut-être. Jérémie dit, et quand Jérémie prophétise, Babylone était le centre du monde. Pas le Babylone du fin des temps, le Babylone du temps de la Bible. Vous avez lu le livre de Job, difficile, hein? Vous avez lu le livre de Jérémie? Difficile, très difficile. Ne me demandez pas de donner des études bibliques sur Jérémie, c'est très compliqué. Mais juste une astuce pour lire le livre de Jérémie, ne cherchez pas, n'essayez pas de trouver dans le livre de Jérémie une ligne. Il n'y a pas de ligne. Je veux dire, ce n'est pas chronologique, il n'y a pas d'histoire. Si, il y a des petites histoires, mais il n'y a rien de chronologique. Qu'est-ce qui est le livre de Jérémie? Jérémie était prophète. Prophète au temps où les 10 tribus du Nord, Israël, était déjà vaincu, envahi, vaincu et emmené en exil par les Assyriens, et maintenant ne restait que le tout petit royaume de Juda au sud, royaume faible, petit et menacé par les Babyloniens. Les Babyloniens qui menaçaient Juda, et en ce temps, Jérémie exerce son ministère. Et le livre de Jérémie, en somme, simplement, c'est une collection de ses sermons. Comme par exemple, votre pasteur prêche tous les dimanches, et à la fin de l'année, on publierait un livre avec le texte de tous ces messages. Vous me suivez? Vous ne trouvez pas nécessairement ligne là-dedans. Il ne prêche pas chaque semaine un message qui suit la semaine avant. C'est selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est dans toutes les églises la même chose. Il se peut que 2-3 semaines de suite, il traite un thème, mais Jérémie, c'est ça. C'est une collection de messages. Et quel est son message principal? Israël, attention, peuple de Dieu, attention, vous vivez dans le péché. Dieu va vous juger. Convertissez-vous, sinon les Babyloniens vont arriver et ils vont faire avec vous ce que les Assyriens ont fait avec Israël. Il dit même, comment ça se fait? Vous avez vu ce qui s'est passé à vos cousins, les Israéliens, et vous, vous faites la même chose. Vous n'apprenez pas la leçon. Et pourquoi est-ce qu'ils n'apprenaient pas la leçon? Il y a un arrière-plan. Et je vais vous expliquer en deux mots l'arrière-plan pour revenir à Babylone dans l'Apocalypse. L'arrière-plan est ceci. Nebuchadnezzar, 606 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem. Jérusalem, ville emmurée, très fortifiée. Nebuchadnezzar vient de faire 1800 kilomètres à pied, il fait chaud là-bas, avec ses troupes, n'est-ce pas? Il assiège Jérusalem. Pourquoi ne pas le vaincre? Pour le vaincre, ça va lui coûter beaucoup de ses soldats. Hein? Nous sommes juifs à Jérusalem. Nous allons nous réfugier dans la ville, fermer les portes. Les Babyloniens vont camper autour de la ville, assiéger la ville, pas essayer de la vaincre, parce que s'ils se mettent tout à fait autour, ils pensent, ils vont se rendre. Plutôt que de mourir de faim, si les portes sont fermées, on ne peut plus venir avec à manger. Mais avant de mourir de faim, ils n'ont pas d'eau, ils vont mourir de soif. Du manger, vous pouvez le stocker, vous pouvez le garder pendant longtemps. De l'eau, c'est déjà plus compliqué, surtout de ce temps-là. On n'avait pas les moyens. De l'eau qui est, comment on dit ça en français, qui reste dans un puits, ça devient mauvais, hein, après un temps, vous voulez plus le boire. Ce que les Babyloniens n'ont pas su, c'est que, auparavant, quand les Assyriens sont venus, cent ans auparavant, le roi Ézéchias a fait construire un tunnel en dessous du mur, 550 mètres si je me rappelle bien, et en faisant cela, l'eau de la source Gihon passait en dessous des murs. Nebuchadnezzar assiège la ville en attendant que les Juifs se rendent. Parce que sinon, ils vont mourir de soif. Il va pas attaquer la ville, parce que s'il attaque la ville, nous les Juifs dedans, nous allons nous mettre sur les murs, et quand ces soldats viennent plus trop près, avec nos arcs et nos flèches, nous allons tirer sur eux, et si nous les tuons pas avec nos arcs et nos flèches, nous avons des barils d'huile bouillante à verser sur leur tête. L'ennemi n'aime pas ça, n'est-ce pas? Alors, plutôt que ça, il se met autour de la ville et l'attend. Les Juifs, ça va durer une semaine ou deux, ils vont se rendre parce qu'ils vont avoir soif. Et qu'est-ce qu'ils voient ces maudits Juifs faire? Tous les matins, ils versent l'eau de leur toilette au-dessus des murs, sur la tête des soldats. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez assez d'eau pour faire votre toilette, il n'y a pas de pénurie d'eau, hein? Comprenez? Alors, à la fin, soit il doit assaillir la ville, risque de perdre beaucoup de ses soldats, ce qui ne lui rendra pas populaire quand il rentre chez lui, hein? Ou alors, ils doivent trouver une accommodation. Donc, négociation. Et les résultats de la négociation, écoutez, j'épargnerai votre ville, Nebuchadnezzar, j'épargnerai votre ville, pourvu que vous me payez des impôts. Les Juifs négocient, l'impôt est assez élevé, mais mieux ça que notre ville détruite et nous tous en exil. Nebuchadnezzar était un homme très spécial. Si je vous dis qu'il ne savait ni lire ni écrire, pas parce qu'il n'était pas intelligent, il avait des secrétaires pour lire et écrire. Il n'avait pas besoin de lire et écrire lui-même. Mais il était un homme excessivement intelligent. Si intelligent qu'il se rendait compte que même si les Juifs ont signé, nous paierons des impôts, il sait que les Juifs sont comme les Wallons, ils n'aiment pas les impôts. N'est-ce pas? S'ils ne sont pas obligés de les payer, ils ne les paieront pas. J'ai raison, hein? Je connais les Flamands plutôt que les Wallons, mais je crois que c'est le même ici aussi. Si on ne vous oblige pas, vous payez pas. N'est-ce pas? J'ai raison, oui ou non? Quand vous donnez l'offrande, le culte de dimanche, vous chantez. Oui? Vous prenez les offrandes pendant un chant. Vous ne chantez pas quand vous payez vos impôts, je suis sûr. C'est pas la même chose. Et Nebuchadnezzar, il se dit, quand mon dos est tourné, et je retourne à Babylone, n'oublions pas, 1800 kilomètres à pied, hein, ils vont plus payer. Ils vont plus payer. Donc, la première tranche, il le prend avec. Mais l'année prochaine, il doit de nouveau payer. Alors, pour être sûr qu'ils vont quand même payer, qu'est-ce qu'il fait, Nebuchadnezzar? Il prend quand même des exils. Des nobles. Entre eux, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, des nobles du pays. Si votre fils est pris en exil à Babylone, et Nebuchadnezzar dit, si vous n'envoyez pas les impôts, je tue votre fils, vous serez quand même, peut-être quand même plus prêt à payer vos impôts, n'est-ce pas? Sauf si vous avez des rois. Malheureusement, comme toute une succession de rois en Juda, si vous lisez l'histoire des rois en Juda, vers la fin, ils ne régnaient que très peu, certains seulement 2-3 mois. Ils se succédaient très vite. Et le roi qui succède dit, c'est pas moi qui a signé le contrat avec Nebuchadnezzar, c'est mon prédécesseur. Moi, je suis pas obligé de payer les impôts. Je ne les paye pas. Nebuchadnezzar, voyant les impôts qui n'arrivent pas, revient. Je vous ai dit, c'était un homme spécial. D'abord, il était très intelligent. Il était aussi un stratège génial dans la guerre. Mais il était aussi un homme connu pour sa colère. Il doit de nouveau faire l'aller-retour 1800 kilomètres pour venir récolter ses impôts. Il arrive maintenant à Jérusalem. Il est furieux. Comprenez? Maintenant, les Juifs ont peur. Les Juifs vont maintenant négocier de nouveau. Et à la fin des fins, ils arrivent à persuader Nebuchadnezzar que maintenant, ils vont être sages et ils vont payer les impôts. Bien, vous avez compris qu'entre-temps, les impôts sont beaucoup plus élevés. Nous parlons maintenant 587 avant Jésus-Christ. Il part de nouveau Nebuchadnezzar. Et le roi dit, paye plus. Vous comprenez aussi, le roi, il veut garder son trône. Un roi qui vous fait payer des impôts, il n'est plus sûr de son trône. Hein? Mais le roi est aussi intelligent. Il se dit, si je ne paie pas les impôts, Nebuchadnezzar va revenir une troisième fois, et là, ça va être notre fête. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans ce temps-là, il y a deux grandes puissances dans le monde. À l'est, il y a Nebuchadnezzar et les Babyloniens. À l'ouest, il y a les Égyptiens, le Pharaon. Alors, le roi de Juda envoie des ambassadeurs à l'Égypte avec de l'or, et négocie une police d'assurance. Et l'or est la prime pour l'assurance. Si Nebuchadnezzar nous attaque, vous, les Égyptiens, vous nous venez en aide. Donc, voici le prime de l'assurance. Si nous entendons que Nebuchadnezzar vient, on vous donne un coup de fil et vous venez avec vos armées pour nous aider. Bien sûr, Nebuchadnezzar, les impôts n'arrivent pas. La deuxième fois, il était déjà en colère. Vous imaginez, la troisième fois, il est intenable. Coup de fil en Égypte, et Égypte n'envoie personne. Pourquoi le ferait-il? Ils ont déjà l'or. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Comprenez? Et c'est à ce moment-là que Jérusalem, temple et tout, complètement détruit. Bon, ça c'est l'arrière-plan au serment de Jérémie. Ne vous confiez pas, ne vous fiez pas aux Égyptiens. Les Égyptiens, vous savez ce que c'est? Comme un roseau. On met son pied dessus, il casse. Ne comptez pas là-dessus, ils vont pas vous aider. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne comptez pas sur les Égyptiens, comptez sur Dieu. Mais il compte sur les Égyptiens. Résultat, exil 70 ans à Babylone. Et derrière cet arrière-plan-là, et derrière les sermons de Jérémie. Et non seulement qu'il dit l'Égypte ne vaut rien, et Juda, ce que vous faites n'est pas juste, etc. Vous devez vous confier à Dieu, vous convertir de vos péchés, servir Dieu, et qui sait, peut-être que Dieu sera encore miséricordieux. Mais personne ne l'écoute. Si vous avez lu l'histoire, on le met en prison. Ses sermons sont notés. Son secrétaire Baruch prend ses sermons en sténo. Et on trouve le livre de ses sermons, le brûle. Jérémie les dicte de nouveau. C'est pour ça que nous les avons maintenant. Mais le peuple n'écoute pas. On le met en prison. Plutôt que d'écouter des messages qu'on n'aime pas écouter. J'espère, frère, que ce ne sera pas notre sort. Que si notre congrégation n'aime pas notre sermon, ils peuvent nous le dire, mais qu'ils nous mettent pas quand même en prison. Mais c'est ça l'arrière-plan. Et alors, il parle de Babylone aussi. Et il les prévient, les avertit ce que Babylone va faire. Malgré cela, malgré vous n'aimez pas lire ces sermons, moi non plus, parce que ces sermons sont négatifs, menaces. Si votre pasteur prêche comme ça tous les dimanches, vous cherchez une autre église, je suis sûr. On n'aime pas ça. On aime un sermon qui nous édifie, pas qui nous casse. Et Jérémie, mais ils ont raison, il a raison. Mais malgré cela, il parle de Babylone à la fin des temps. Et il dit, même si Babylone va venir et va détruire Jérusalem, il va vous emmener en exil, ce sera la fin de Juda, du moins pour un temps. À la fin, Dieu va juger Babylone aussi. Et c'est toujours le cas. Quand il nous semble que le diable a tout à dire, n'oublions jamais que la facture lui sera présentée à la fin des temps. Et qu'est-ce que dit Jérémie? Babylone, il parle prophétiquement, c'est difficile de comprendre quand les verbes sont dans le temps passé. C'est difficile à comprendre qu'en somme, on parle de l'avenir. Je connais pas l'hébreu, mais on me dit, en hébreu, c'est plus facile. Donc, voyez le temps passé pour indiquer l'avenir. Ne me demandez pas de vous l'expliquer. Mais il dit ceci, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Intéressant. Une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Oui, mais non, attention, Jérémie, là, ce que tu dis là, tu t'es trompé. Babylone n'était pas dans la main de l'Éternel. Babylone était dans la main de la grande prostituée, dans la main de l'Antichrist. Non, non, Jérémie. Parce que derrière l'Antichrist, le texte avec lequel j'ai commencé ce soir, c'est Dieu qui lui a mis d'exécuter ses desseins. Donc, cette coupe d'or que Jean, dans l'Apocalypse, voit dans la main de la grande prostituée, oui, mais la grande prostituée, c'est Dieu qui tient les ficelles. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Très intéressant de voir, comment est-ce qu'on doit dire ça, l'unité de la Bible, n'est-ce pas? Jérémie, il y a plus de 2500 ans, qui exerce son ministère, qui prêche ce message-là. À ce moment-là, si vous auriez été dans son église et vous auriez entendu nous aurions entendu ce message, on n'aurait rien compris. Mais depuis qu'on a l'Apocalypse, et on voit que l'un explique l'autre, rejoint l'autre. Ah! Maintenant nous comprenons ce que Pasteur Jérémie a prêché il y a 2500 ans. Ça a duré longtemps, mais on a fini par le comprendre. Parce que la Bible est une unité. Passons encore sur autre chose qu'on a déjà mentionné ce soir. La marque sur le front. On contraste au sceau sur le front de ceux qui se convertissent au Christ dans la grande tribulation, sur son front, la grande prostituée, et nous savons, non seulement sur son front à elle, mais sur tous ceux qui le suivent, la marque de la bête. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Vous vous rappelez la marque de la bête, que ceux qui sont intelligents le calculent, c'est aussi un mystère. Un mystère. Et quel mystère? Deux points. Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. La marque, le sceau pour les chrétiens, c'est une marque qui donne le salut. Une marque qui est sur le front de la grande prostituée, abomination. De la terre. La marque est mystérieuse, dans le sens, pas un secret qu'on ne peut pas comprendre, mais mystérieux dans le sens de symbolique, comme d'ailleurs beaucoup dans l'Apocalypse. Et pour nous, la signification n'est pas trop difficile à comprendre. Quand Dieu dit que la marque identifie ou est identifiée avec ou par les impudicités et les abominations de la terre. Plusieurs des caractéristiques de ce, entre guillemets, mystère seront révélées au chapitre 18. Donc j'attends encore un peu avant de les aborder. Mais la plus frappante de ces éléments, de ce mystère, est l'élément qui est déjà mentionné, l'impudicité. L'ange, au début du chapitre 17, appelle la femme la grande prostituée. Si vous voulez, symbole d'impudicité, voilà. Et elle est la mère des prostituées. Dans la parole de Dieu, la prostitution ne symbolise pas seulement la prostitution comme nous la connaissons, hein, disons, des femmes qui se vendent. Ça va encore plus loin. Ça symbolise cela aussi, c'est aussi la prostitution littérale, mais ça va plus loin. Et très souvent dans la parole de Dieu, quand on parle de la prostitution, il ne s'agit pas de quelque chose de physique, mais plutôt de spirituel. Un peuple qui adore des idoles plutôt que d'adorer Dieu se prostitue dans la Bible. Donc, la prostitution dans la Bible symbolise souvent la fausse religion et l'idolâtrie. Et quand les gens adorent un soi-disant Dieu qui n'en est pas un, tôt ou tard, ils s'en rendent compte. Notre idée de Dieu, notre concept de Dieu, trouve ses origines chez les Juifs. En somme, notre concept de Dieu n'est pas beaucoup différent que le concept des Juifs. L'Évangile ajoute à Dieu des caractéristiques qui sont dans l'Ancien Testament, mais qui ne sont pas nécessairement accentuées. L'Ancien Testament parle de son amour, mais ce n'est pas vraiment l'accent, tandis que dans le Nouveau Testament, cet amour est beaucoup plus présent. Mais l'idée de Dieu que les Juifs avaient et ont, et que nous avons, il faut comprendre que cela n'a rien ou presque rien à voir avec l'idée que les peuples anciens avaient de leur Dieu. Donner une valeur à un Dieu? Est-ce que votre Dieu est plus grand que mon Dieu? Comment est-ce que nous pouvons le savoir? Nous disons, mais Dieu est grand, il n'est pas seulement grand, il y a rien de plus grand que lui. Mais dans les temps anciens et dans les fausses religions, c'est pas comme ça qu'on pense. Les Médo-Perses, par exemple, croyaient que chaque ville, chaque village avait un dieu. Et si vous vouliez avoir de la paix et de la prospérité dans votre ville ou votre village, il fallait adorer le dieu de votre ville ou votre village. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de Esdras et de Néhémie, quand le roi Cyrus et Darius envoient d'abord Esdras et puis Néhémie et dit vous pouvez rentrer dans le pays, Esdras, vous pouvez reconstruire le temple, Néhémie, vous pouvez reconstruire la ville de Jérusalem, mais priez pour le roi. Vous allez reconstruire, mais vous priez pour moi. Vous priez votre Dieu à Jérusalem. Et pourquoi est-ce qu'il envoie les Juifs à Jérusalem? Pourquoi pas est-ce qu'il ne demande pas à Tobias et Sambalat, qui veulent aussi, eux, construire le temple, pourquoi pas eux? Non, parce que dans son idée, chaque ville, et donc Jérusalem, a un Dieu. Et il est clair que le Dieu de Jérusalem veut être adoré par les Juifs, pas par des Perses, n'est-ce pas? Donc, vous qui êtes de Bois-de-Villers, c'est vous qui devez adorer le Dieu de Bois-de-Villers, pas moi, j'habite à Anvers. Il ne va pas être content de mon adoration. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Mon Dieu à Anvers est beaucoup plus grand que le vôtre à Bois-de-Villers. Comment est-ce que je le sais? Nous avons 500 000 d'habitants. Nous avons une grande ville, riche et prospère. C'est clair que notre Dieu est plus puissant et plus grand. C'est ça comme ça qu'il pensait. Vous comprenez? Quand, comment ils appellent ça en français, les Assyriens arrivent à assiéger Jérusalem, Sanhérib, Sanhérib, il s'appelle ça en français. Saint-Chérib. Il dit à Ézéchias, ne vous confiez pas à votre petit Dieu. On ne vous a pas dit ce que notre Dieu a fait au Dieu de cette ville-là et au Dieu de ce pays-là et Dieu. Ne vous confiez pas à votre Dieu à vous. Qu'est-ce qu'il a jamais donné à son peuple? Qu'est-ce que vous avez comme pays? Rien du tout. Tout petit. La moitié est désertique. Et vous trouvez que votre Dieu est grand? Regardez. Mon empire, ça c'est un Dieu. C'est comme ça qu'il pensait. Alors, dans la fin des temps, si toutes ces fausses religions ont cette idée-là de Dieu, qui leur a donné cette idée? C'est pas le Dieu du ciel qui a implanté cette idée, c'est le diable. Le diable qui veut toujours faire croire qu'il est le plus grand. J'ai eu un ami qui était pasteur pas tellement loin de chez nous, et j'ai toujours dû rigoler. Quand on rendait visite chez lui, on sonnait la porte. Il avait un chien. Et ce chien aboyait. Et on aurait dit un chien énorme. Tellement que cette bête pouvait faire du bruit. Et quand il ouvrait la porte, petit chien de rien du tout. C'était seulement du bruit. Et le diable, c'est ça, n'est-ce pas? Il s'est fait énormément de bruit. Mais il n'est pas le grand. Le vrai Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, etc. Et il faut toujours tenir dans l'arrière-plan de l'Apocalypse comme des autres histoires de la Bible. Le diable fait croire aux gens que lui, il est plus grand. Et donc, qu'il va vaincre l'Éternel. Et les gens le croient. Parce que, comme plusieurs fois nous lisons dans l'Ancien Testament, David parfois, il s'en plaint. Comment ça se fait que les païens, ils sont plus prospères que nous? Leur Dieu les bénit. Et toi, où es-tu? Où tu es? Dans certains psaumes, on a cette question qui se pose. Et si nous sommes honnêtes, enfin, si moi je suis honnête, il m'est arrivé des moments de détresse, de grande détresse, où je dis, mais Dieu, je crois, mais où est-ce que tu es maintenant? Hein? Et si on devait vivre dans ces 7 ans de grande tribulation, et maintenant nous sommes dans les derniers mois de ces 7 ans de grande tribulation, Dieu, où est-ce que tu es? Où tu es? Nous avons vécu, à partir du chapitre 4, maintenant jusqu'à chapitre 17, nous avons vécu tout ça, et où est-ce que tu es? Ce sera pas difficile pour le diable de dire, où est-ce qu'il est? Vaincu. C'est moi qui suis le Dieu maintenant. Et tout cela arrive à son climax à Babylone. Vous me suivez? Hein? C'est pas si difficile, je pense, à comprendre. Et l'impudicité, la prostitution, vous avez suivi des autres dieux. Vous n'êtes pas resté. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, et vous pouvez trouver ça dans l'histoire de l'idolâtrie, aussi longtemps que les dieux de votre pays ou de votre ville vous donnent la prospérité et la victoire, vous allez les adorer. Mais si demain, les Anversois assiègent et vainquent Boisdevillers, vous n'allez plus adorer le dieu de Boisdevillers, n'est-ce pas? Vous allez dire, ah oui, le dieu d'Anvers, il est plus grand. N'est-ce pas? Dans leur logique, hein? Et c'est ça. Quand, dans la fin des temps, et vers la fin de la grande tribulation, les gens voient que l'Antichrist ne leur a pas apporté la paix, il ne leur a pas apporté la prospérité, etc., etc. Les gens sont quand même intelligents. Si nous votons pour un gouvernement, et le gouvernement ne fait pas ses promesses. Quand c'est les prochaines élections, c'est l'opposition qui va gagner, n'est-ce pas? Seulement chez nous, ça se passe en paix. Tandis qu'ici, c'est pas ça. Le peuple va se tourner soi-disant contre leur Dieu, mais ils ne peuvent pas s'attaquer à leur Dieu, bien sûr, ces dieux n'existent pas. Ils vont s'attaquer à la grande prostituée. Quand ils se rendent compte qu'ils adorent un soi-disant Dieu qui n'en est pas un, ils ont vendu leur cœur à des faux dieux, des idoles, des fausses doctrines, des fausses pratiques qui ont pris la place de ce que Dieu a révélé et enseigné. Dieu va les accuser d'impudicité. Encore une partie d'un sermon de Jérémie. Avec l'arrière-plan que je vous ai cité, vous allez comprendre son sermon tout de suite. L'Éternel me dit, il parle aux Juifs, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout toit, tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, l'exil assyrien, j'ai vu que la perfide de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement, par sa criante impudicité. Israël a souillé le pays, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Vous comprenez tout à fait le message maintenant, hein? Exactement ça. Ézéchiel, lui, il prophétise après Jérémie. Pas longtemps après Jérémie, quelques années seulement, mais entre-temps, il y a un énorme changement dans la situation. Et quel changement? Jérémie avait raison. Nebuchadnezzar est revenu en 586 et cette fois-ci, il ne négocie pas. Détruit tout, prend le peuple juif en exil à Babylone. C'est maintenant eux qui ont fait 1800 kilomètres. Et là, à Babylone, Dieu lève le prophète Ézéchiel. Et si vous avez déjà eu difficile à lire Job, et encore plus difficile à lire Jérémie, ne commencez pas Ézéchiel. Parce que ça c'est compliqué. Mais en somme, Ézéchiel, c'est un peu comme Jérémie dans ce sens que c'est surtout une collection de sermons. Il faut pas chercher une histoire là-dedans. Une chronologie, une collection de sermons. Mais maintenant, la différence n'est pas un avertissement contre ce qui va venir, les Babyloniens, parce que maintenant les Babyloniens sont venus, le peuple de Juda a été emmené en exil, et maintenant Jérémie va dire, voilà, c'est ce qu'on vous avait dit, et vous n'avez pas voulu écouter, et maintenant, parce que vous n'avez pas voulu écouter, voici ce qui vous est arrivé. Vous pouvez dire, ça c'est quand même un peu, hein, mettre le couteau dedans. Mais parfois, n'est-ce pas vrai, frères et sœurs, si nous réfléchissons, et je ne veux pas prêcher, mais parfois, il est bien de réfléchir, pourquoi est-ce que quelque chose m'est arrivé? Comment ça se fait que Dieu l'a permis? Parce que c'est pas toujours la faute du diable, hein? Comprenez ce que je veux dire? Si, par exemple, vous fumez 200 cigarettes par jour et vous attrapez un cancer au poumon, ne venez pas me dire « Oh, ce maudit diable !» Oui, c'est le maudit diable qui vous a frappé du cancer, ça je suis sûr, mais vous lui avez donné quand même un sérieux coup de main. C'est vrai, hein? Et parfois, si Dieu permet dans notre vie des épreuves, ce n'est pas seulement le diable. C'est parfois parce que nous sommes déviés, nous avons quitté le chemin, et Dieu permet que nous passions par quelque chose pour que nous revenions à nous-mêmes. et que nous revenions à Dieu. Je crois que parfois c'est nécessaire de réfléchir à cela. Comme nous avons lu dans les lettres au début de l'Apocalypse, les lettres à l'Église, réfléchis d'où vous êtes tombé. Comment ça se fait? Comment vous êtes tombé? Parce que, en principe, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais en principe, si nous comprenons où nous sommes trompés, on devrait être intelligent assez pour ne pas répéter la même erreur. Malheureusement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me brûle parfois deux fois. Mais le principe, on le comprend. Et le peuple d'Israël, c'était la même chose. Ils ont appris et puis ils n'ont pas appris. Parce qu'ils sont retournés dans leur péché. Mais, donc, Ézéchiel, il prêche maintenant aux Juifs qui sont en exil à Babylone. Et il leur dit, voilà, comment ça se fait que ça vous est arrivé? Tu t'es bâti des maisons de prostitution. Tu t'es fait des lieux hauts dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes lieux hauts. Tu as déshonoré ta beauté. Tu t'es livré à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux. Tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Tu t'es prostitué aux Assyriens. Parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, Babylone ça. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu baptisais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, il y avait des maisons de prostitution, mais il y avait aussi des temples idolâtres. Il parle des deux. Lorsque tu faisais tes lieux hauts dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Vous ne revenez pas dimanche prochain, hein, si Ézéchiel va prêcher. Hein. Mais les Juifs ont compris le message. Hein. Comme nous connaissons l'arrière-plan, c'est fort. Pour quand même un tout petit peu... je voudrais pas que vous partiez à la maison en pensant, ouf, c'est Ézéchiel, ça c'est quoi? Non. Si vous lisez plus loin, il prêche l'évangile. Il met le couteau dedans, il leur fait comprendre leur péché, et puis il dit, mais, si vous retournez au Seigneur, Dieu, vous ferez encore grâce. Et puis vers la fin de la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre, s'il y a un chapitre d'Ézéchiel que les chrétiens connaissent, c'est le 37. La vision des ossements. Et qu'est-ce que ça dit cette vision? Vous êtes, c'est vous ça. C'est vous, les Judas, Israël, c'est vous. On dit ossements en français? Oui, c'est vous ça. Et Dieu souffle. Hein? Dieu dit à Ézéchiel, Dieu souffle. Et qu'est-ce que ce souffle? Le Saint-Esprit. Et ses ossements se redressent et redeviennent de la vie. Et Ézéchiel n'a pas vécu assez longtemps pour le voir. Mais un de ses premiers exilés, je vous ai parlé de Daniel, 606 avant Jésus-Christ, qui était tout jeune à l'époque. Il est adolescent quand il est emmené en idole. Il a servi Nebuchadnezzar et les successeurs de Nebuchadnezzar, pendant toute sa vie, Dieu lui a donné faveur aux yeux des Babyloniens et il avait une place très élevée dans le gouvernement. 539 avant Jésus-Christ, les Babyloniens sont vaincus par les Médo-Perses. Connaissez l'histoire? Daniel chapitre 5, un des successeurs de Nebuchadnezzar qui s'appelle Belshazzar, il donne une fête. Et il donne une fête juste au moment, écoutez bien, où il le sait, les armées Médo-Perses assiègent sa ville. Mais il ne s'en fait pas du tout, parce qu'il sait que sa ville est imprenable. Pénurie d'eau, pas question. Il y a le fleuve Euphrate qui passe au milieu de la ville, ils ont tout l'eau qu'ils veulent. Et quand le fleuve Euphrate entre dans la ville, il y a des murs autour de la ville, des murs tellement épais qu'il y a une autoroute au-dessus. On peut se passer à 4 chariots sur le mur, largeur de 4 chariots. Donc, les Médo-Perses n'ont pas la moindre chance d'entrer dans la ville. Belshazzar donne une fête. Notre dieu, Marduk, le dieu des Babyloniens, Baal en Israël, c'est le même dieu, Marduk, il est beaucoup plus grand. Il protège sa ville, il a toujours protégé sa ville, il le fera maintenant. Fête à Marduk. C'est pas la première fois. Mais maintenant, il fait quelque chose qu'il n'a pas fait auparavant. Pendant la fête, il a déjà bu un peu. Il ordonne que on apporte les coupes d'or qui étaient dans le temple à Jérusalem, que Nebuchadnezzar avait emporté à Babylone 70 ans auparavant. Et je vais boire de ces coupes d'or de Dieu. Dieu a de la patience, mais il faut pas le pousser trop loin. Et pendant qu'il boit de ses coupes avec ses copains, pendant qu'il boit, une main apparaît et un doigt écrit sur le mur. Tu es pesé et tu es trouvé trop léger. Et à ce moment-là, il est paralysé de peur. Et dans la même nuit, ce qu'il ne sait pas, parce qu'il est occupé avec sa fête, il n'y avait même pas, l'histoire nous le dit, la Bible pas, mais l'histoire séculaire nous le dit, il était tellement sûr de sa ville, il n'avait même pas des gardes sur le mur. Et les Médo-Perses ont profité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que le fleuve passait en dessous du mur. Ils ont construit une barrage devant la ville, mis le lit du fleuve à sec, et ces soldats sont passés sous le mur. Et ils ont envahi la ville au milieu de la nuit. Belshazzar a été tué. 539. 538. Ce Daniel, qui a servi les Babyloniens fidèlement, avec ses copains, tout en gardant leur foi, tout au début, refuser de manger le manger qui n'est pas cachère. Ses 3 copains, Shadrach, Meshach et Abednego, plutôt que de se prosterner devant l'idole, sont prêts à aller dans la fournaise ardente, où Jésus vient les sauver. Daniel, maintenant, 539, les Médo-Perses arrivent. Daniel garde sa place. Un des premier ministre de l'Empire. Ses copains qui, sous les Babyloniens, on ne le sait pas, soit ils l'ont laissé tranquille, soit ils n'ont pas trouvé de moyens de le faire tomber. Maintenant, on a des nouveaux maîtres. Peut-être qu'avec les nouveaux maîtres, on aurait plus de chance. Comment est-ce qu'on le fait chuter? Dans son travail, il est impeccable. On ne peut pas l'accuser dans son travail, mais sa religion. Il y avait dans la religion médo-perse, aussi idolâtre que les autres, mais il y avait un aspect que dans les autres, dans les autres manifestations de la religion idolâtre, n'existait pas. Bien sûr, dans toutes les religions idolâtres, l'empereur était en contact avec les dieux, c'était le représentant des dieux. Donc, l'empereur qui signe une loi, c'était pas seulement l'empereur, c'était la loi de Dieu. Les Médo-Perses ont pris cette idée encore un tout petit peu plus loin. Ils ont dit, puisque c'est la loi de Dieu, c'est une loi parfaite. Et comme c'est une loi parfaite, ça ne peut jamais être changé. Hein? Vous suivez le raisonnement, hein? Nous savons que c'est farfelu tout à fait. Mais si nous suivons dans leur idée. Donc, c'est Dieu qui a fait cette loi. Bien sûr, c'est l'empereur qui le signe, mais lui, il est seulement le représentant de Dieu. Il est inspiré par Dieu. Donc, il fait cette loi, il signe. Et comme c'est de Dieu, c'est parfait. Donc, il ne peut jamais être changé. Et les ennemis de Daniel, ils vont voir le roi. Et vous les voyez entrer chez le roi. Un nouveau roi. Ils veulent garder leur place, hein. L'homme n'a pas changé, hein. L'homme est toujours, même ils veulent garder leur place. Un nouveau roi, parfois, tout le monde à la porte et je nomme des autres. Ils veulent garder la place. Donc ils viennent. Oh, roi. Formidable, hein. Tu es le roi, le grand roi de l'empereur. Formidable. Et tu es le représentant de Dieu. Eh bien, fais une loi. Comme quoi, pendant un mois, il est défendu de prier à un autre Dieu, sauf à toi. Tous les rois sont orgueilleux. Oh, le roi signe. Daniel lit le nouveau roi. Il est un des premiers ministres. Il reçoit une copie. Et nous savons que Daniel, étant juif, il prie 3 fois par jour, comme les juifs encore aujourd'hui, dans la direction de Jérusalem. Et comme il est juif, il prie toujours à haute voix. Il prie pas comme nous, silencieusement, il prie à haute voix. D'accord? Alors, maintenant, si vous me permettez de donner à Daniel quand même un peu de conseil. Écoute, Daniel. Toi, tu pries 3 fois par jour, déjà depuis au moins 80 ans. Multiplié, hein, 365 fois 80 fois 3. C'est déjà, j'ai une fois fait le calcul, je crois que c'est déjà dans les 80 000 fois que tu as déjà prié. Congé de prière pendant 30 jours, ça ne va quand même pas faire l'affaire. Hein? Pour te sauver la vie. Oui, mais il y a un principe, hein. Un juif ne prie pas à un idole. Il ne prie pas à un homme, seulement à l'Éternel. Et Daniel n'a jamais de toute sa vie fléchi le genou devant un faux Dieu. Vous êtes d'accord? C'est pas maintenant qu'il va commencer. Oui, mais Daniel, attends. C'est très courageux de jouer le petit soldat, mais c'est pas seulement toi-même. Qu'est-ce que tu penses, Daniel? Le fait que tu sois un des premiers ministres, depuis déjà tant d'années, c'est pas parce que c'est Dieu qui t'a nommé. Et le fait que tu sois le premier ministre, et ça c'est certainement vrai, ça a été pendant toutes ces années une certaine protection pour ton peuple. Parce que tu as pu représenter ton peuple auprès du roi et quand même obtenir des faveurs. Si maintenant tu te laisses jeter dans la fosse aux lions, parce que quelqu'un qui prierait un autre Dieu pendant un mois sera jeté dans la fosse aux lions. Si tu fais ça, tu n'as pas le droit. C'est Dieu qui t'a mis comme premier ministre. Tu n'as pas le droit. Et n'oublions pas que les rois dans ce temps-là étaient très, très colériques. Ils risquent non seulement de jeter Daniel dans la fosse aux lions, mais de punir tous les juifs. Alors Daniel, s'il te plaît, congé de prière pendant 30 jours, c'est pas grave. Ou alors, si tu veux absolument prier à Dieu, pas devant ta fenêtre ouverte dans la direction de Jérusalem, enferme-toi dans ta salle de bain, où personne ne peut t'entendre, à l'intérieur de ta maison. Oui, vous rigolez, mais c'est pas logique ce que je dis. Mais Daniel m'écoute pas. Trois fois par jour, il prie devant sa fenêtre ouverte dans la direction de Jérusalem et les agents du KGB du roi perse sont en dessous de sa fenêtre. Résultat, la nuit, fosse aux lions. Ok, vous n'avez pas l'air d'être effrayé. Bien sûr, vous avez lu jusqu'à la fin du chapitre 6 et vous savez que Daniel, il est sorti indemne de la fosse aux lions. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Nous sommes 539 et Daniel a survécu. 538, lisez le livre de Daniel. Il lit ce livre, cette collection des sermons de Jérémie. Il lit les sermons. Dans un de ses sermons, il lit que Jérémie a dit, les Babyloniens vont venir, vous allez être punis parce que vous n'êtes pas restés fidèles à Dieu, les Babyloniens vont venir, ils vont vous emporter à Babylone, et votre exil durera 70 ans. Et Daniel se met à compter. 606, nous sommes maintenant 538, ça veut dire, 68 ans de ces 70 ans sont déjà passés. Il se met à jeûner, à prier à Dieu. Notre délivrance arrive encore 2 ans et nous allons être délivrés. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous devons préparer? Comment, hein, etc. Et si vous lisez Esdras, vous allez voir qu'en 536, donc exactement 70 ans, comme Daniel a compris, c'est en 536 que Darius, le roi Médo-Perse, il fait un décret, il écrit un décret, tous les Juifs qui veulent rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple et adorer leur Dieu, et prier pour la santé du roi, qu'ils y aillent. Et quand vous lisez l'histoire, vous savez non seulement qu'ils y vont, mais c'est l'Empire qui finance la construction aussi. Une formidable histoire. Et tout ça est ici derrière. Cyrus, oui, pardon, c'est Cyrus. Darius, c'est Néhémie, sans doute, hein, c'est plus tard, ou Asvéros, je sais plus. Ils ont plusieurs noms. Mais enfin, c'est le roi Médo-Perse. Bon. Donc, même ces sermons d'Ézéchiel, vous vous êtes prostitué, etc., vous avez multiplié vos prostitutions, quelle faiblesse vous avez eue, il finit par dire, il y aura une délivrance. Et cette délivrance vient. Amen. Dieu voulant, la fois prochaine, on va tuer la grande prostituée et détruire Babylone. Je crois que c'est important de connaître l'arrière-plan. Ça nous aide à positionner et à voir comme la Bible est vraie. Parce qu'on lit des choses et parfois c'est difficile. Hein? Et tout n'est, dans l'ordre de l'Ancien Testament, ce n'est pas chronologique. Les livres ne sont pas chronologiques. Job, c'est au milieu de l'Ancien Testament. Il devrait probablement être après Genèse. Si on les mettait chronologiquement. Mais tout cela a un message prophétique, même si c'est de l'histoire, un vécu réel, il y a un message prophétique. Si ce n'était pas le cas, imaginons que ce n'était pas le cas, quelle valeur est-ce que ces livres auraient aujourd'hui? On pourrait lire l'histoire de Jérémie ou des rois d'Israël comme on lit l'histoire de Napoléon. C'est simplement de l'histoire. Tandis que nous, nous savons que quand nous lisons, même quand nous ne comprenons pas, le Saint-Esprit fait quelque chose avec ses paroles. Il y a quelque chose qui vient avec ses paroles. Si je lis l'histoire de Napoléon, je trouve ça très intéressant. Cela intéresse mon intelligence, mais pas mon esprit. Tandis que quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pas seulement l'intelligence qui est touchée, mais aussi l'esprit. Mais l'histoire est quand même importante. Comment ça se fait qu'il faut expliquer cette histoire maintenant? Pourquoi est-ce que cette histoire n'est pas expliquée dans la parole de Dieu? Parce qu'au temps de la Bible, ils n'avaient pas besoin qu'on leur explique l'histoire. C'était leur histoire. Ils savaient. Mais aujourd'hui, nous l'avons perdue. Et c'est pour ça que des études bibliques comme ça sont si importantes. On peut très difficilement traiter ça dans un sermon le dimanche. On n'a pas le temps. Mais ici, même si je n'ai pas prêché un sermon, ce soir, j'ai prêché un sermon. Parce qu'il y a un message de Dieu là-dedans. Enfin, j'ai dit assez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.